des membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont déjà dans totalement
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bienvenue sur le Canu Info, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM et comme tous les vendredis, une semaine sur deux, c'est le Canu Info anticarcéral. Alors cette semaine, on va vous parler, on va commencer par un petit billet d'humeur. Ensuite, on va vous parler très vite des prisons, la réforme pénale en France, suivi d'un communiqué de la coordination des détenus en Italie. Puis, on va vous parler de l'assassinat de l'évadé grec Marianne Kolla. Et enfin, les brèves de détention et les brèves d'évasion de tout l'été, ce qui en fait un sacré paquet. Voilà.
Alors, commençons par les Jeux de la francophonie. Du coup, c'est un article qu'on a pris dans Slate Afrique et qu'on a réécrit un petit peu pour mettre notre petite graine. Et tandis qu'à Lyon apparaissent des affiches pour la Biennale d'art contemporain avec le visage défoncé d'un étudiant blanc, rien à voir avec la francophonie, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Rappelant amèrement les visages défoncés des femmes lors des campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, est-ce que le lobbying des assos SOS Papa et autres consorts masculinistes aurait financé la campagne de pub pour la dernière Biennale d'art contemporain lyonnaise? En tout cas, on va devoir se les farcir pendant 4 mois. Mais est-ce pire que ce qui se passe sous le soleil de la Méditerranée? Avec Christian Estrosi, le député maire de Nice, qui accueille les Jeux de la francophonie du 7 au 15 septembre. Il s'époumonne dans les médias pour dire à quel point c'est LA manifestation à ne pas rater en ce mois de septembre. Ce même Christian Estrosi qui, au mois de juillet, hurlait contre l'installation des caravanes des gens du voyage sur sa commune et faisait un appel à la haine à destination de tous les maires de France pour lutter contre ce soi-disant fléau venu de l'intérieur. Ces Françaises et Français qui veulent vivre en caravane et en itinérance depuis des lustres et des lustres sur le territoire français. On arrive au jeu de la francophonie. Mais qu'est-ce que c'est déjà la francophonie ? C'est l'espace francophone, un ensemble de 77 pays ayant en partage la langue française, avec environ 250 millions de locuteurs et locutrices. Et on nous explique aussi que la francophonie, c'est la défense des valeurs humanistes, de solidarité, de justice et d'idéaux de démocratie. Bah voyons, c'est l'héritage colonial en quelque sorte, non ? La justification de grandes valeurs sociales pour asservir les populations sur leurs propres terres avec l'armée en renfort. Mais ne faisons pas trop de politique, Lyon est encore ensoleillé, c'est pas vraiment cool en cette rentrée. Retournons donc vers la Méditerranée, vers cette chère côte d'Azur, avec ses ratonnades, ses crimes policiers, sa vieille bourgeoisie cramée par le soleil et ses ouvriers qui construisent leurs maisons de rêve et ses femmes de ménage et nounous qui s'occupent de leurs enfants. Ces côtes d'Azur où vont se succéder compétitions sportives en tout genre et concours artistiques et culturels, des jeux donc de la francophonie. Figurez-vous que les Jeux de la francophonie ont commencé en 1989 à Casablanca et Rabat au Maroc. Et figurez-vous aussi que les organisateurs attendent tout de même 80 000 spectateurs pour la seule cérémonie d'ouverture avec les nombreuses délégations des 57 pays participant à cette fiesta. Mais la France reste égale à elle-même en termes de fermeture des frontières puisque certaines délégations n'ont toujours pas reçu leur visa d'entrée en France comme celle du Congo, Kinshasa, ça donne envie d'y aller.
Et c'est la première anticarcérale de la rentrée, du coup, où on parle pas mal des prisons. Et là, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Ça commence tout de suite avec des petits mots sur la réforme pénale. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, où les gouvernements socialistes qui essaient de rester un tout petit peu de gauche malgré les tendances de droite et d'extrême droite au sein du parti vont faire une réforme pénale et sont écharpés un peu cet été autour de ça. Elle a été annoncée la semaine dernière. Il s'agit en gros un peu de trucs bien, beaucoup d'arnaques et en échange beaucoup plus de répression. Avec comme les trucs bien, il n'y en a qu'un seul en fait, c'est la suppression des peines planchers. Ça a été créé en 2007 et là ça y est, c'est fini. Et les peines planchers, c'était en gros une personne qui est récidiviste, qui a déjà été condamnée pour un fait et qui est recondamnée pour les mêmes faits, avait une peine minimale. Par exemple, si le délit est condamné à 3 ans de prison, la peine minimale était à 1 an de prison et les juges n'avaient pas le droit de mettre en dessous de ça. Et du coup, ben, ça n'existera plus. Alors c'est quand même une pas trop mauvaise nouvelle dans la vie de donner un peu plus de liberté aux juges pour mettre des peines moins fortes. Ensuite, il y a un peu d'arnaque avec l'instauration de la contrainte pénale. En fait, c'est une nouvelle peine qui n'existait pas avant. En fait, on reste dehors, mais avec des obligations, comme par exemple pointer au comico, obligation de travailler, tout ça. Des interdictions, comme interdiction de sortir de tel département, de sortir du territoire, de tout ça. Tout ce qui ressemble un peu à un contrôle judiciaire, mais aussi des mesures de réparation. Alors si ça va être condamné pour violence ou quoi que ce soit, eh ben, ça va être de rembourser les victimes. Et aussi des mesures de suivi. On imagine les suivis des personnes qui sont addictes à certaines drogues et que du coup, on les oblige à se prendre des soins. Et ça fait tout ça, ça fait quand même énormément de contrôle. Et en fait, la prison à la maison, comme c'était le cas avec le bracelet, sauf que là, c'est plus facile à prononcer puisque c'est un peu moins cher que le bracelet électronique. Et ça fait une peine vraiment facile à mettre parce que, en fait, c'est juste pas la prison. Et du coup, les juges vont pas hésiter à mettre pas mal de contraintes pénales pour tous les petits délits.
Mais moi, j'ai pas compris, c'est quoi la différence avec le contrôle judiciaire, du coup ?
Ben, le contrôle judiciaire, c'est un peu toute la même chose, sauf que quand même, il n'y a pas d'obligation de soins, il n'y a pas de plein de trucs. Mais en tout cas, c'est la même chose que le contrôle judiciaire, dans la mesure où pointer chez les flics, ou pas le droit de sortir du territoire, ou pas le droit de sortir du département, interdiction de voir certaines personnes et tout ça.
C'est juste des obligations en plus, en fait.
Ouais.
D'accord.
Et puis le contrôle judiciaire, c'est quand on n'a pas été condamné, alors que là, c'est une condamnation, quoi. Et du coup, une fois qu'on a été condamné, on en prend pour 5 ans de cette merde-là, et on ne s'en sort pas, alors que le contrôle judiciaire, dans la vie, ça dure 6 mois, 1 an maxi, mais après, on te lâche l'affaire.
Ouais, je vois.
Et en fait, ça fait beaucoup plus de gens qui sont enfermés à l'extérieur, qui sont contrôlés hyper fortement à l'extérieur. Ça va bien dans l'humanité un peu et l'humanisme de la société. Et puis, de toute façon, tout le monde se dirige vers là. Alors, ça ne changera pas grand-chose peut-être au final. En tout cas, finalement, ça ne change pas non plus grand-chose avec ce qu'il y avait avant. Puisqu'avant, il y avait le sursis avec mise à l'épreuve qui consistait en exactement la même chose. Sauf que c'était un gros flicage aussi, c'était les mêmes mesures, tout ça. Sauf que si on ne le respectait pas, on allait en taule. Alors que cette fois-là, si on ne le respecte pas, ben on ne sait pas trop ce qui se passe. On peut être condamné à nouveau, mais en tout cas, il n'y a pas la taule systématique. Bon, en échange de cette petite arnaque, il y a plus de répression. Parce qu'il fallait donner des gages à la droite et à l'extrême droite du Parti Socialiste. Avec, par exemple, en fin de peine, la création d'une sortie sous contrainte. Alors, c'est le grand dada, c'est il faut pas de sortie sèche. Il faut que les détenus qui sortent de prison aient encore des cadres. Et du coup, on va leur mettre, pareil, des obligations, des interdictions, de la surveillance et tout ça, dehors, une fois qu'ils sont sortis. Enfin, il y a aussi réduire les aménagements de peine. Alors ça, c'est vraiment de la grosse arnaque de ouf, quoi, parce que auparavant, quand on était condamné, par exemple, à une peine inférieure, quand on était, par exemple, c'était la première fois qu'on était condamné, si on avait une peine inférieure à 2 ans, par exemple, on pouvait négocier un bracelet électronique, une semi-liberté, on pouvait négocier des tiges, enfin, voilà, avec le juge d'application des peines. Et maintenant, au lieu de ça, en fait, quand on est condamné à 2 ans, eh ben, on fera les 2 ans. Et ce délai-là est ramené à juste 1 an. Du coup, ça divise par 2 le nombre de possibilités d'avoir des aménagements de peine. Bon, et puis le gouvernement garde le cap, parce qu'il y a quand même 6500 places de prison qui sont prévues d'être construites d'ici 2017. Il embauche plein de SPIP, c'est les surveillants, c'est les services de probation et d'insertion pénitentiaire, qui en fait, c'est eux qui organisent le flicage à l'extérieur des personnes qui sont condamnées. Et du coup, embaucher plein de SPIP, ça permet d'enfermer plein de gens dehors et de mettre en place la mesure de contrainte pénale.
C'est eux qui s'occupent des raccourcissements de peine, si t'en semis liberté.
Ouais. En plus de ça.
C'est pas la police nationale, quoi.
Non. C'est,
j'aurais pu croire ça.
C'est les services de la tôle, quand même. Et voilà, et du coup, c'est un peu toute l'idée de la réforme pénale, d'enfermer plus à l'extérieur, peut-être un peu moins dedans, et en tout cas de fliquer les gens tout le temps.
Ça nous étonne pas tellement, finalement. Best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du vendredi soir, le Canu Info anticarcéral. Alors, on va parler maintenant du communiqué de la coordination des détenus en Italie.
Des nouvelles de l'Italie, parce que ça bouge beaucoup dans les tôles en Italie depuis le début de l'année. Et aussi, ce qui est un peu fou, c'est qu'il y a pas mal de détenus dans des prisons différentes qui s'organisent et qui signent des textes ensemble. Elle s'appelle la coordination des détenus. Et au printemps dernier, elle a fait un appel qu'on va vous lire et qui appelle à se mobiliser pour le mois de septembre, du coup, à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est signé une coordination des détenus. Je commence. Elle est née de manière spontanée la veille de la manifestation nationale anticarcérale à Parme, le 25 mai 2013, et veut porter en avant une mobilisation contre les conditions inhumaines et toutes les barbaries du système pénitentiaire italien. La date du 25 mai a été un épisode important pour nos luttes, à l'intérieur comme à l'extérieur de ces murs, et a amené une prise de conscience. Les nombreux témoignages de solidarité ont réchauffé nos cœurs et ont porté la nécessité de ne plus rester indifférente face à une situation intolérable pour laquelle les organisations internationales ont déjà condamné notre pays. En même temps que la grève de Parme, les détenus ont entrepris diverses formes de protestation, comme la grève de la faim, le refus de consommer la nourriture distribuée par la prison, des pétitions, les battitura, comme du bruit répétitif sur les barreaux des cellules, mais les difficultés de communication ont empêché une plus large adhésion. Ceci ne nous décourage pas. Au contraire, ça nous stimule à mieux faire et à s'y engager davantage, parce que nous savons aujourd'hui, plus que jamais, que la seule lutte paye.
Nous avons décidé d'appeler à une mobilisation nationale pour le mois de septembre, qui commencera le 10 et finira le 30 septembre. Notre intention est de faire entendre notre voix et protester contre la situation explosive des prisons italiennes, avec une surpopulation intolérable, avec des détenus entassés dans des cellules infâmes, dans des conditions hygiéniques quotidiennes à la limite de la décence, dans lesquelles on subit la spéculation sur les prix des marchandises, l'exploitation véritable des détenus lavoranti-travailleurs, des traitements inhumains de toutes sortes, des abus en tout genre et beaucoup, beaucoup d'autres choses encore. Nous devons aussi protester contre toutes les formes de torture légalisées que subissent les internés des régimes 41 bis et 14 bis, sorte de quartiers haute sécurité ou quartiers d'isolement, et des hautes surveillances qui sont quotidiennement assassinées psychologiquement et physiquement. Nous demandons l'abolition de ces instruments dignes de la pire dictature et l'abolition de la loi Sinelli, réforme sécuritaire de 2012 de l'administration pénitentiaire, renforçant le pouvoir de celle-ci dans la pleine gestion de ce qu'il se déroule dans les prisons.
Il est important de préciser qu'avec cette forme de protestation, nous ne demandons pas des réductions ou des aménagements de peine. S'ils arrivent, ils serviront à amoindrir la souffrance de quelques détenus et à faire éviter à l'Italie de payer les amendes salées de l'Union européenne. Nous demandons des interventions concrètes qui visent au respect des droits naturels de l'être humain et de l'article 27 de la Constitution. Responsabilité pénale du détenu, devoir de l'administration pénitentiaire, présomption d'innocence devant la justice et droits de l'homme en prison, abolition de la peine de mort. Pour la réussite de cette mobilisation, nous invitons tous les frères et sœurs détenus à adhérer à la grève et à s'engager du 10 au 18 septembre dans une grève de la faim et du 18 au 30 septembre à des formes de protestation qu'ils organiseront et retiendront les plus adéquates. Nous conseillons dans le même temps l'écriture de communiqués et de pétitions. En parallèle, nous appelons à tous les mouvements dehors, aux simples citoyens, aux familles de détenus, aux organisations politiques ou non, d'être notre voix à l'extérieur de ces murs, de soutenir nos revendications, de créer un réseau solidaire, d'informer le plus de personnes possible, diffuser le plus ce communiqué et les informations relatives à la protestation, de décider des formes de lutte à l'extérieur des prisons et d'organiser une manifestation nationale. Le premier pas pour briser ces chaînes, c'est rompre le mur de l'indifférence. La solidarité est une arme, utilisons-la. La coordination des détenus.
Et voilà pour ce qui concerne l'Italie et les détenus qui se mettent un programme de protestation pour ce mois-ci. Avant de passer un petit peu de musique, on va rester dans le sud de l'Europe et parler très vite de la Grèce, parce qu'il s'agit de l'assassinat de Marianne Kolla. Et Marianne Kolla, on en avait parlé parce que, sans le citer son nom, mais parce qu'il s'est évadé de la prison de Trikala, le 22 mars de cette année. C'était une évasion collective. Il y avait 11 prisonniers anarchistes grecs qui s'étaient évadés en même temps. Et du coup, il a été rattrapé le 21 juillet pendant l'été par la police antiterroriste ECAM de Grèce. Et il a été tué d'une balle dans la tête. L'État grec n'a pas ménagé sa peine. Il a vraiment cherché ses 11 prisonniers partout et a mis en scène dans les médias cette chasse et pour mettre en œuvre sa vengeance. Marianne, c'est le troisième des évadés de Trikala à être assassiné par la police, en plus de deux autres personnes qui étaient proches. Et de plus, quatre des camarades de l'évasion avait d'ailleurs déjà été repris au cours de cette traque depuis le printemps. Et voilà ce qui se passe là-bas, mais il y en a encore qui courent toujours, et puis de toute façon, ils ont plein de soutien de partout. On se bat.
We can't get careless. You say, what is this? Man. All beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest to show.
You got to go with what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on
donc maintenant, on en arrive à notre petite session avec les brèves de détention, puis les brèves d'évasion. Les brèves de détention, parce que même si pendant 2 mois, pour beaucoup de gens, ça a été les vacances, et bah, dans les tôles, il a continué à se passer des tas et des tas de choses. Et il nous paraissait important de relater tout ce qui s'était passé, enfin, dans la mesure de ce qu'on trouvait comme information, ce qui n'est jamais vraiment facile, à l'intérieur, histoire de relayer la parole de celles et ceux qui ne l'ont pas forcément à l'extérieur des murs. Alors, commençons.
Le 25 juillet, une mutinerie a éclaté dans la prison de Koutal au Sénégal. Les prisonniers ont refusé une fouille des cellules et se sont révoltés.
Le 26 juillet, des détenus du pénitencier de Libreville, au Gabon, se sont révoltés en solidarité avec l'un des leurs, arnaqué par un maqueton. Ils ont donc refusé une fouille des générales des cellules et une petite mutinerie a éclaté. Elle dénonce les vols pendant les fouilles et les exactions de la part des matons.
Mardi 30 juillet, un détenu a donné un coup de pied à un maton et craché sur 2 autres, dans la tôle de Koulen, près du Mans. Comme d'habitude, les matons et les médias ne disent rien de ces revendications.
Le 1er août, une 20aine de détenus ont lancé une mutinerie dans la tôle de Bourg-en-Bresse, prenant le contrôle d'un bâtiment pendant 3 heures. Ils ont détruit des canalisations d'eau et le système de vidéosurveillance. Ils réclament simplement l'autorisation de porter des shorts en été et on ne sait pas si les matons ont plié finalement.
Le 2 août, le lendemain, un détenu a agressé le chef de détention de la prison d'Albi alors qu'il sortait de la tôle pour une permission de sortie. Comme toujours, pas un mot de fil sur ses motivations.
Le 5 août, 3 détenus du centre de détention de Saint-Miel, dans la Meuse, ont refusé de réintégrer leurs cellules et sont montés sur un toit pour demander leur transfert.
Un détenu s'est pendu dans la nuit du 5 au 6 août dans la tôle de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Il lui restait 1 an de tôle à faire.
Le 8 août, dans la soirée, un détenu de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechain a mis le feu à sa cellule en provoquant des étincelles avec le fil de la télé.
Dimanche 11 août, une 100aine de manifestants et manifestantes se sont réunis devant le centre de rétention pour migrantes de Laval au Québec, Canada. Ils et elles ont crié « Solidarité avec les sans-papiers » et « Personne n'est illégal ».
Mercredi 14 août, un détenu a retenu une matone en otage de 9h à 22h30 à la tôle d'Ansichheim en Alsace. Les flics n'ont pas relayé les exigences du détenu, mais ont mis fin à la prise d'otage en fin de journée. Ce détenu en est à sa 4e prise d'otage depuis 2011 et on dirait que tout le monde se fout de ses revendications.
Mercredi 14 et jeudi 15 août, 2 détenus ont mis le feu à leur cellule dans le quartier disciplinaire de la tôle de Lamp. Le premier a demandé à voir un psychiatre car il ne supportait pas de se retrouver au mitard dans une cellule sans chiottes couverte de déjections. Devant le refus de la paix, il a donc mis le feu à sa cellule. Le lendemain, c'est un autre détenu qui a tenté de se suicider en incendiant sa cellule. Ça a marqué l'anniversaire des 1 an de la mort de sa conjointe dans un accident de la route pendant un aller-retour au parloir. Il dénonce les conditions de détention et le harcèlement des matons devant le tribunal.
Le 15 août, on a appris que les gilets pare-balles des flics sont régulièrement volés au centre de rétention de Cornebarieux, près de Toulouse, depuis le début de l'année.
Le 17 août, des dizaines de détenus d'un centre de détention pour mineurs en Floride ont provoqué une mutinerie, détruisant et incendiant 18 des 20 bâtiments composant le centre.
Lundi 19 août, une 60aine de détenus de la maison d'arrêt de Blois ont provoqué une mutinerie pour dénoncer la responsabilité des gardiens dans la mort de l'un des leurs, constatée le matin même. Un médecin a dit que la mort du détenu était due à une rupture d'anévrisme, ce que les détenus ont contesté. Ils ont refusé de remonter de promenade, puis sont entrés de force et ont saccagé un secteur de la prison. À la fin de la mutinerie, une 40aine de détenus ont été transférés dans d'autres tôles et les flics prétendent qu'il n'y a pas eu de blessés.
Le 19 août aussi, un détenu a roué de coups un maton en sortant de la douche de la tôle d'Uzerche en Corrèze. L'administration pénitentiaire garde le silence sur ses motivations.
Le lendemain 20 août, ce sont les détenus du centre pénitentiaire de Châteaudun qui se sont mutinés. Pendant la promenade, une 20aine de détenus ont escaladé les grillages de la cour et ont atteint les toits des bâtiments. Ils ont lancé des dalles et brisé les vitres. La presse ne relaie pas leurs revendications.
Mais les mêmes ont remis ça dès le lendemain 21 août, alors que les super flics matons étaient encore dans la tôle, ont refusé à nouveau de réintégrer leurs cellules à la fin de la promenade. Les mutins et les mutines ont pris le contrôle de la promenade pendant 3 heures et tenté plusieurs fois de prendre d'assaut un grillage endommagé la veille pour atteindre le chemin de ronde, mais n'y sont pas parvenus.
On passe en Bolivie cette fois, dans la semaine du 19 août, après une violente rixe dans une prison de Santa Cruz. On dénombre au moins 29 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. Parmi les personnes hospitalisées, dans plusieurs établissements de la ville, 35 sont grièvement blessés. Selon le responsable des services pénitentiaires, nous ne voulons pas encore avancer d'hypothèses sur les causes des incidents, il a déclaré, se bornant à évoquer un incendie dû à l'explosion de bonbonnes de gaz.
Vendredi 23 août, au sein de la maison d'arrêt de Gradignan, vers Bordeaux, un détenu se serait jeté sur un surveillant à l'ouverture de la porte de sa cellule. Un autre surveillant s'est interposé et il a également été frappé au visage.
Jeudi 22 août au soir, les flammes ont ravagé une cellule de la maison d'arrêt de Magicavo à Mayotte, où se trouvaient 9 détenus. Mayotte, c'est dans le territoire français, mais c'est les néocolonies. Parmi les 9 détenus, un jeune homme de 19 ans, condamné à 3 ans de prison, a trouvé la mort dans l'incendie.
Et samedi 24 août, à Pleumeur, peu avant la distribution du déjeuner, un détenu a été découvert inconscient dans sa cellule après une tentative de suicide à l'aide d'un drap. Transporté à l'hôpital de Lorient, le détenu âgé de 30 ans se trouve dans un état critique. Dans les Bouches-du-Rhône, un homme d'une cinquantaine d'années détenu à la maison d'arrêt de Tarascon, c'en est deux à la suite, excusez-moi. Donc, autre, dans les Bouches-du-Rhône, un homme d'une cinquantaine d'années détenu à la maison d'arrêt de Tarascon s'est donné la mort vendredi 23 août dans l'après-midi. Il aurait été découvert par le surveillant avec le câble d'une rallonge électrique autour du cou.
Lundi 26 août, vers 7h30, un surveillant de 29 ans aurait été agressé au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier vers Grenoble. Et d'ailleurs, ils peuvent nous entendre. L'incident aurait eu lieu lors du rassemblement pour le début des ateliers alors qu'un détenu s'en était vu refuser l'accès. Touché au bras et à l'œil, il aurait été transporté aux urgences de Bourgoin-Jallieu. Une incapacité totale de travail de 4 jours a été délivrée, ainsi qu'un arrêt de travail de 6 jours.
Le 26 août toujours, c'est un jeune détenu qui a été intoxiqué par les fumées lors de l'incendie de sa cellule à la prison de Rennes-Vézin vers 22h. Il a été pris en charge par les pompiers et selon la gendarmerie, il aurait lui-même mis le feu à son matelas.
Et le 27 août, on apprend que le tribunal administratif de Limoges a condamné l'État à verser la somme de 500 euros environ à un homme de 59 ans, un ancien détenu de la prison d'Uzerche, qui a depuis changé d'établissement. Cette somme correspond à un manque à percevoir pour son travail effectué pendant 6 mois en détention, fin 2011 et début 2012, en tant qu'auxiliaire d'hôtellerie-restauration auprès de l'administration pénitentiaire. L'homme avait saisi la justice d'une requête en référé en s'estimant lésé par la rémunération de son travail. Il a gagné, bravo.
Jeudi 29 août, 50 détenus de la maison d'arrêt et de correction de Zinguichor au Sénégal sont en grève de la faim depuis mardi. Ils exigent la réfection des bâtiments de la prison en ruine. Les prisonniers craignent pour leur sécurité et protestent contre les longues détentions provisoires. Parmi les 200 détenus que compte la maison d'arrêt et de correction, 105 attendent depuis longtemps d'être jugés. Ils exigent la tenue d'une cour d'assises pour être fixés sur leur sort.
Une longue brève maintenant, puisqu'en Belgique, fin août, une nouvelle plainte a été déposée auprès du parquet de Turnhout à l'encontre du directeur de la prison de Wortel, Jeff Butt.
Précédemment, le directeur âgé de 63 ans aurait notamment demandé des faveurs sexuelles à des compagnes de détenus en échange d'un régime plus souple pour ces derniers. Il nie fermement toutes ces accusations, bien sûr. L'administration pénitentiaire lui a entre-temps interdit l'accès à la prison. Une plainte similaire avait déjà été déposée à son encontre en 2003, plainte classée sans suite, évidemment. Selon l'avocat du directeur, il s'agissait alors d'un complot fomenté par quelques détenus et il pourrait s'agir de la même histoire aujourd'hui. Selon lui, toujours, il envisage de porter plainte pour calomnie et diffamation.
Le frère d'un ancien détenu, quant à lui, ancien détenu entre-temps décédé, accuse le directeur de propositions sexuelles non sollicitées. Jeff Butch lui a promis de le faire transférer à la prison d'Oakstraton, car il lui serait alors plus facile d'obtenir une libération sous condition. Mais il y avait une contrepartie. Après sa libération, il a été invité à 2 reprises par le directeur à l'hôtel, explique l'avocat, où le directeur lui a proposé des relations sexuelles, ce qu'il a refusé.
Depuis début septembre, la maison d'arrêt d'Arras dans le Pas-de-Calais fait l'objet d'enquêtes diverses relatives à des violences en détention. Un juge d'instruction vient d'être nommé dans une affaire supposée d'actes de torture et de barbarie. Un détenu présenterait 200 lacérations. Fin août sortait la nouvelle de la condamnation de deux détenus pour violence sur l'un de leurs co-détenus dont le corps était couvert d'hématomes.
Début septembre encore, on apprenait qu'à la maison d'arrêt de Douai dans le Nord, le budget annuel a déjà été dépassé. Les caisses sont quasi vides. Aucune dépense n'est autorisée, sauf en cas d'impératif. La maison d'arrêt, une des plus importantes de France avec environ 600 détenus pour 385 places, n'a plus assez d'argent pour assurer son fonctionnement. C'est ce que révèle une note datée du 22 juillet. Dans ce document qui est confidentiel, le directeur de la tôle annonce la mise sous tutelle budgétaire de l'établissement, une décision rare qui interdit toute nouvelle dépense sans l'aval de la Direction interrégionale des services pénitentiaires du département.
Et mardi 3 septembre vers 7, le surveillant principal de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, dans l'Hérault, a été agressé chez lui, à Frontignan, par un ancien détenu accompagné de deux complices. Vers 22h, les trois hommes ont interrompu une soirée entre amis en sonnant à l'interphone. Lorsque le gardien a ouvert la porte, il s'est retrouvé nez à nez avec qui ? Un ancien détenu, qui l'a giflé trois fois, avant de le menacer de diffuser son adresse à tous les détenus de la maison d'arrêt, ce qu'on espère qu'il a fait. Les occupants du logement ont repoussé les agresseurs, qui ont pris la fuite, et évidemment, les trois qui ont été agressés, là, ils ont appelé la police. La victime n'était pourtant pas blessée.
Mercredi 4 septembre, au Gabon, 261 détenus de droit commun n'ayant subi aucune sanction disciplinaire durant leur détention ont recouvré la liberté à la prison centrale de Libreville à la suite d'une mesure de grâce présidentielle. Alors qu'à Mouila, chef-lieu de la province de Gounié, dans le sud du Gabon, la grâce présidentielle a été accordée à 34 détenus, dont 33 Gabonais et un expatrié. La grâce présidentielle est accordée chaque année au Gabon aux personnes incarcérées dans les centres de détention des chefs-lieux des 9 provinces du pays. La scène est rare. Vendredi 13 septembre comparaîtra au tribunal. Ah, ah.
C'en est une petite autre.
C'en est une toute petite autre.
Et je vais la dire comme ça. Donc c'est vendredi 13 septembre que la scène est rare et ça se passe à Nancy où l'ancien directeur de la prison Charles III est poursuivi pour imprudence après la mort d'un jeune détenu en 2004. La victime aurait été rouée de coups par son co-détenu qui attendait son procès. Et son procès, en fait, c'était pour des faits d'actes de torture et de barbarie commis 4 ans plus tôt sur un co-détenu dans la même prison. Les parents du jeune homme qui est mort ont déposé plusieurs plaintes, classées sans suite. Mais la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy ne l'a pas entendu de la même oreille que le parquet et a décidé de renvoyer elle-même l'ancien directeur en correctionnel, estimant qu'il n'a pas assuré la sécurité du détenu en relevant des dysfonctionnements. Des accusations dont il se défend, rappelant que la prison de Nancy était une prison très vétuste.
Comme d'habitude. Et enfin, pour les brèves de détention, le 4 septembre toujours, on apprend que la famille du détenu décédé à Blois, du coup des suites, le détenu qui était décédé et que par la suite, tous les gens de la prison, ils avaient lancé une mutinerie.
Ah oui.
Et ben, les proches de la famille, du coup, les proches et la famille portent plainte. C'est le 19 août qu'ils ont porté plainte en fait. Ils ont porté plainte contre X pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. La famille de Mounir Belhoussine souhaite légitimement connaître les circonstances exactes du décès du jeune homme de 26 ans, sportif et en parfaite santé. C'est une histoire qui ressemble à beaucoup d'autres histoires en prison malheureusement. D'autant qu'à ce jour, aucune copie du dossier, en particulier du rapport d'autopsie, ne lui a été transmise, qui est la voie légale normalement et qui est aussi malheureusement le cas pour beaucoup de familles. Courage à la famille et aux proches et c'est fini pour les brèves de détention pour cette semaine.
On enchaîne, continue. Vous êtes toujours sur Radio Canu. On enchaîne avec les brèves d'évasion.
102.2 FM, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info anticarcéral. Et des brèves d'évasion, pourquoi ? Parce que toutes les deux semaines, et là c'est plutôt pour tout le mois dernier, on essaie de relayer tous les actes d'évasion des prisons, des commissariats, des centres de rétention et de toutes ces institutions qui sont censées être fermées qu'on veut nous faire croire complètement infranchissable, ces grands murs, et que pourtant, chaque fois, il y a plein de monde qui arrive à se barrer.
Et on commence avec début juillet, un détenu de la prison de Bois-d'Arcy en région parisienne qui a profité d'un transfert à l'hôpital pour tenter de se faire la belle. Il a pris une gorgée d'eau et l'a recraché violemment au visage des deux matons de l'escorte avant de les bousculer et de s'enfuir en courant, mais malheureusement il a été vite rattrapé.
Le 8 juillet, 6 détenus se sont évadés de la prison centrale d'Idiofa en République démocratique du Congo. On ne sait pas comment, à part qu'ils ont sûrement eu l'aide d'un maton.
Mi-juillet, c'est un détenu de la tôle de Maubeuge, dans le nord de la France, qui s'est évadé, tout simplement ne revenant pas à la fin d'une permission de sortie. Plutôt, il s'est rendu à un commissariat pour demander à être emprisonné à Rodez, dans le sud, plutôt que dans le nord. Il a pris 15 jours de plus et on ne sait pas si sa demande de transfert a été acceptée, s'il a passé l'été au soleil.
Bah oui, on ne veut pas te transférer, tu te transfères tout seul, c'est logique. Vendredi 19 juillet, un couple hétéro a refusé de se faire expulser à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Sur le chemin du retour en direction du centre de rétention de Mesqueleux, la femme a simulé un malaise pour faire arrêter le convoi sur une aire d'autoroute en Bourgogne. Dans les toilettes, 4 personnes armées de cutters et de lames ont blessé et neutralisé 2 flics, permettant à l'homme de s'évader. La femme n'a pas pu le suivre, un troisième flic la retenant dans la voiture. La suivante, c'est la même.
D'accord, on va faire une petite pause musicale.
Ouais.
Le 23 juillet maintenant, c'est 500 à 600 migrantes qui ont pris d'assaut l'enclave espagnole de Melilla dans le nord du Maroc. Toutes ces personnes ont escaladé le grillage de l'enclave en 2 points en même temps pour dépasser les flics espagnols et marocains. Et de fait, ça a marché avec 200 d'entre eux qui ont réussi à franchir la frontière.
Et dans la nuit du 23 au 24 juillet, une mutinerie a éclaté à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mutinerie qui a donné lieu à une tentative d'évasion. Un détenu a refusé de changer de cellule, mettant le feu aux poudres dans toute la tôle. 2 matons ont été blessés et 3 détenus tués dans les affrontements.
Le 24 juillet, c'est au commissariat de Caluire qu'une personne a réussi à fausser compagnie aux flics alors qu'elle était en garde à vue. Elle a bousculé un flic, puis a sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée du commissariat et est rentrée chez elle. Malheureusement, elle était mineure et c'est ses parents qui l'ont ramenée au poste le jour même.
Le lendemain, c'était le 25 juillet, c'est un détenu de la maison d'arrêt de Brest, en Bretagne, qui a profité d'un court séjour à l'hôpital pour se faire la belle. Un psychiatre ayant requis une hospitalisation d'office, le détenu a réussi à défaire des sangles qu'il maintenait sur son brancard et à partir dans la nature. C'est assez balèze. C'est la deuxième évasion de ce type à Brest en 15 jours.
Et jeudi 25 juillet toujours, 2 détenus se sont évadés du pénitentiaire de l'Orbe, près de Lausanne, en Suisse. 2 complices ont forcé un portail avec un petit camion, puis ont forcé les barbelés et disposé 2 échelles sur les grilles de la tôle, tirant en l'air pour intimider les matons. Les 2 détenus ont pris la fuite à bord d'un second véhicule et ils courent toujours.
Vendredi 26 juillet, une personne en garde à vue a réussi à s'échapper du commissariat de Mâcon au début de son transfert vers le tribunal. On ne sait pas si elle a été retrouvée.
Le lendemain, le 27 juillet, c'est 1 millier de détenus qui se sont fait la malle d'une tôle de Benghazi en Libye. Une manifestation a eu lieu à l'extérieur et au même moment, les détenus ont organisé une mutinerie et ils ont été plus d'un millier à se faire la malle.
Dans la nuit du 29 au 30 juillet, une centaine de personnes ont pris d'assaut la prison de Dera Ismail Khan au Pakistan, armés pour affronter les matons et munis d'explosifs pour faire exploser les nombreux murs de cette prison où 5000 détenus sont enfermés. Vêtus d'uniformes de la police, ils ont d'abord coupé l'électricité de la tôle, qu'ils ont attaqué à l'arme lourde. Ils ont pris le contrôle de la tôle pendant 4 heures, appelant au mégaphone les détenus qu'ils voulaient libérer en priorité. Résultat, 243 détenus se sont fait la belle, dont 6 seulement ont été repris par les flics. 13 personnes, matons, flics et détenus, sont mortes pendant l'assaut.
Mercredi 31 juillet, un détenu de la prison de Hot Spring, dans l'Arkansas aux États-Unis, a tenté l'impossible et a réussi. Au parloir, un complice a détourné l'attention des matons. Pendant ce temps, le fugitif s'est faufilé à travers la fenêtre du guichet du parloir et s'est dirigé vers la sortie, puis a couru sur le parking. Un complice l'attendait au volant d'une voiture et les deux ont disparu dans la nature. C'était pas très visuel, mais ça a l'air d'être fou ce qu'il a fait.
Ouais, il y a des petites vidéos sur Internet où on le voit sortir par la fenêtre et courir sur le parking de la 11 aux États-Unis, c'est un peu fou. Le 31 juillet, c'était le même jour, un détenu a tenté de s'échapper de la prison de Bertoua au Cameroun. Incarcéré depuis 4 jours seulement, il a éventré une partie de la toiture à 6h30 du matin et escaladé le mur d'enceinte. Mais les matons l'ont arrêté après des tirs de sommation.
Le 2 août, un détenu a tenté de s'évader de la prison de Forest, près de Bruxelles, en Belgique. Il a atteint le chemin de ronde, mais aurait été rattrapé par les flics avant de passer le second mur d'enceinte.
Le 4 août, 22 détenus se sont évadés de la prison centrale de Watsa, en République démocratique du Congo. La pluie a provoqué l'effondrement d'un mur de la tôle, donnant une occasion en or aux détenus. Mur par mur, pierre par pierre, la météo...
Lundi 5 août, c'est encore une fois un migrant enfermé dans le centre de rétention de Metzkeleu qui a réussi à se faire la belle. Il a prétendu avoir avalé un cadenas pour être transféré à l'hôpital. Puis, une fois qu'il est dans la chambre de l'hôpital, les flics faisaient la garde devant la porte principale et il a eu bien de la chance puisqu'il s'est barré par une porte secondaire et n'a pas été retrouvé.
Lundi 5 août, encore, des détenus de la prison de Boaké en Côte d'Ivoire ont tenté de s'évader. Ils ont d'abord incendié le bâtiment administratif et l'infirmerie de la tôle, puis ont refermé dans une cour les matons venus éteindre l'incendie. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à franchir le mur d'enceinte de la tôle.
Le 6 août, 50 migrantes ont réussi à franchir le grillage de la frontière séparant le Maroc à l'Espagne, à Melilla. On ne sait pas combien d'entre elles et eux ont mené l'assaut cette fois-ci.
Le 6 août, le même jour, un détenu de la maison d'arrêt du Gasquinois près de Béziers a fait croire qu'il avait bu de la Javel pour être transféré à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hosto, il a menacé les matons avec une brosse à dents munie de lames de rasoir et a pris en otage une passante. Malheureusement, les matons l'ont maîtrisé et l'évasion a foiré.
Et dans la nuit du 10 août, une mutinerie a éclaté au centre de rétention pour migrants d'Amidalesa, en Grèce. Sur les 1620 personnes détenues dans le centre, des centaines se sont révoltées contre la prolongation de la durée de leur détention en incendiant des matelas et des ordures et jeté des pierres et des bouteilles, blessant une dizaine de flics. Les détenus parlent d'un à deux morts de leur côté et de nombreux blessés, mais 10 d'entre elles et eux ont réussi à s'évader.
Le 10 août encore, deux détenus ont réussi à s'échapper de la tôle de Marie Caveau à Mayotte, près de La Réunion. Pendant la promenade, ils ont escaladé le grillage de la cour et atteint les toits et la liberté. Malheureusement, l'un des deux, qui étaient deux, a été rattrapé par les gendarmes le lendemain. Le second, parce qu'il était deux, en revanche, il court toujours.
Le 11 août... Une mutinerie a éclaté dans un centre de détention pour jeunes de Sao Paulo au Brésil, les détenus prenant 12 matons en otage. Les mutines ont remis ça dès le lendemain, mais ont été beaucoup plus efficaces. En fait, elles ont provoqué un grand incendie, gravement blessé le directeur de la tôle et ont pris en otage une trentaine de matons quand même. De là, 103 jeunes ont tenté de s'évader, mais seulement une soixantaine ont réussi à se faire la belle.
C'est déjà pas mal.
Oh oui.
Le 15 août, un détenu de la prison de Donnacona au Québec a pris la fuite. Il est parti de la cour de promenade en escaladant le mur d'enceinte et une clôture et s'évade à pied. La classe. Malheureusement, il a été rattrapé 2 jours plus tard.
Et début août, un détenu incarcéré en semi-liberté à la maison. C'est la rentrée, il faut qu'on se remette dans le rythme. Voilà. Ça, c'est donc à Saint-Étienne, chez les Verts, la maison d'arrêt de la Talaudière. Un détenu incarcéré en semi-liberté n'a pas réintégré sa cellule, allant plutôt visiter sa grand-mère.
Il a été voir sa mémé.
Et voilà. Et c'est bas, c'est sympa.
C'est sympa pour mémé. Bon,
Jean. Mais il s'est rendu de lui-même au flic et sa cavale a peu duré. Mais il a quand même pris 6 mois de plus le 14 août. Et oui, souvent quand on fait des tentatives d'évasion, on s'en prend plein la gueule pour rester encore plus longtemps.
C'est malheureux. Il vaut mieux pas être repris, quoi, ni se rendre de lui-même. Le 17 août, c'est un détenu de la prison de Saint-Sulpice dans le Tarn qui n'est pas retourné dans sa cellule à la fin de sa permission de sortie. Mais la cavale n'a duré que quelques heures, les gendarmes ayant ramené le détenu de la tôle en fin de journée.
Dimanche 18 août, 5 migrants et migrantes se sont évadés du centre de détention de Northam en Australie, près de Perth. Malheureusement, le 22 août, 4 avaient déjà été repris par les flics.
Dimanche 18 août, toujours 8 prisonniers ont blessé un maton à la prison centrale de Libreville au Gabon, tôt le matin. Le maton mis hors d'état de nuire, les 8 détenus se sont enfilés dans le bateau. Et 4 d'entre eux ont été rattrapés, mais les autres courent toujours. Eh ben oui, oui, oui.
Le 18 août toujours, qui est décidément une très bonne date, c'est en Indonésie que l'évasion la plus massive a eu lieu. Les détenus de la prison de Labuan Ruku protestaient contre leurs conditions de détention, mettant le feu aux cellules et attaquant les matons. Dans la confusion de la mutinerie, une trentaine ont réussi à s'enfuir et seulement la moitié ont été rattrapés par les flics.
Ah, il y en a une plus tard où il y a plus que ça qui se sont évadés. Hein. Bref. Sinon, le 19 août, 13 détenus de la prison de haute sécurité d'Ezeiza, près de Buenos Aires en Argentine, ont réussi leur évasion. C'est presque cinématographique. De leur cellule, ils ont creusé un tunnel de 40 cm de large, fait céder 30 cm de béton armé pour atteindre la cour de la prison, couru une trentaine de mètres, coupé un grillage, couru 40 mètres de plus et coupé 3 autres grillages. Bam, évasion réussie.
Incroyable.
Big up.
Et le lendemain, le 20 août, vers 19h30, et ça c'est assez important l'heure, un détenu du centre de détention d'Argentan, Basse-Normandie, en examen à l'hôpital, est parvenu à s'évader. Il avait commencé en disant avoir ingurgité des lames de rasoir, avoir mal au ventre, tu m'étonnes. L'idée est d'aller aux urgences pour s'évader depuis l'hôpital. Fin comédien, le détenu pousse loin son stratagème en allant jusqu'à inventer une fausse incapacité à marcher pour qu'on lui retire ses menottes. D'une incapacité à marcher, on peut obtenir un fauteuil roulant et pour faire avancer un fauteuil roulant, il faut avoir les mains libres. Dans son entreprise, le détenu se surpasse, surveillant et équipe de soins n'y voit que du feu et les retire.
D'un moment d'attente, on va peut-être changer comme ça, ça fait
okay.
Plus agréable. Dans la salle de radio, ce même détenu où il avait été laissé seul, il trouve le moyen de s'évader. Il se lève de son siège, rejoint rapidement une issue de secours avec la mention exit qui donne tout de suite sur l'extérieur. Simplement, il l'ouvre, puis s'échappe, ajoutant, pour finir, en direction des matons et des médecins sur un ton plaisantin. « Salut les gars !» Et ceux-ci ne parviendront pas à le rattraper. Mais le 9h du matin, il se rend de lui-même au commissariat de Montrouge et les flics l'interpellent, le placent en garde à vue, le ramènent à Argentan. Une procédure de comparution immédiate est lancée, il chope 5 mois de plus.
Mardi 20 août encore, des dizaines de détenus du centre de rétention de Sadao en Thaïlande. Sur les 137 détenus, 87 ont réussi à s'évader. Ils et elles ont fait un trou dans le plafond et ont pris la fuite avec une corde fabriquée grâce à des vêtements.
Ma détention se passe vraiment mal. Avec du racket, des menaces, j'ai même été brûlée au troisième degré. C'est pour s'entretenir avec son avocat des conditions de vie au sein de la prison de Bourg-en-Bresse que ce détenu n'a pas réintégré sa cellule le 22 août dernier. Après 2 ans de détention, il avait une permission de sortie d'une matinée pour préparer une formation professionnelle. Mais il en a profité pour prendre la fuite et aller voir son avocat et sa famille à Valence. Finalement, se sachant recherché, il s'est rendu au commissariat de cette ville le 26 août. Mais c'est sûr que Valence est plus sympa que Bourg-en-Bresse.
Et jeudi 22 août, c'était à Reims, un détenu tente de s'évader pendant les obsèques de son oncle. En fait, une fois que la célébration est terminée, il remonte dans le fourgon pour rejoindre le cimetière à l'avenue de Lens, lieu de l'inhumation. Après que la cérémonie se termine et avant de se faire remettre les menottes, le jeune homme demande à passer quelques instants avec sa sœur, mère d'un nourrisson qu'il n'a jamais vu. Il fait quelques allées et venues, tient la poussette, prend le bébé dans ses bras, qu'il redépose soudain pour s'enfuir à toutes jambes. Les gendarmes l'ont rattrapé après une rocambolesque course-poursuite. 6 gendarmes lancés à ses trousses dans le cimetière, une tombe escaladée, la grille sautée, une famille atterrée qui lui crie de s'arrêter. Il s'est arrêté.
Et le 23 août, un détenu a pris 4 ans ferme au tribunal de Colmar. Ni une ni deux, il court à travers la salle du tribunal, saute par la fenêtre et atterrit dans les jardins du tribunal. Malheureusement, il y a encore une grille à passer et les gendarmes en profitent pour le rattraper. Il n'en est pas à sa première car il faisait déjà partie des détenus évadés de la tôle de Colmar en décembre dernier, passant discrètement par les toits. Et je me demande si ce procès-là, justement, c'était pas pour lui rajouter de la peine par rapport à son évasion précédente.
En Guinée, le 23 août toujours, une trentaine de détenus de la prison civile de Mamou, située à 260 km de la capitale guinéenne, Conakry, se sont évadés en profitant de la pluie torrentielle. Les détenus auraient neutralisé le gardien avant de passer par le toit de la prison pour s'enfuir.
On revient en France avec dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août, ce sont 11 personnes qui se sont enfuies du centre de rétention administrative, le CRA du Bois de Vincennes, situé dans le 12e arrondissement de Paris. Les détenus seraient parvenus à découper un grillage aux alentours de 2h du matin. Le CRA de Vincennes, qui avait brûlé en juin 2008 lors d'émeutes, ayant éclaté le lendemain de la mort d'un des retenus tunisiens, qui était, selon les autorités, décédé d'une crise cardiaque. En fait, une cinquantaine de personnes à l'époque avaient profité du sinistre pour prendre la fuite. Fermé plusieurs mois, il avait subi des travaux et était rouvert en novembre 2010. L'année dernière, 7 clandestins s'étaient enfuis de ce centre en profitant de la relève des matons. Dans la nuit du dimanche au 1er septembre, c'était une évasion massive d'une tôle au sud de la Tunisie. Selon les sources, en fait, c'est 29 à 74 détenus qui se seraient fait la belle de la tôle de Benghazi.
Et il y a 69 ans, le 2 septembre, 183 entre guillemets patriotes parvenaient à s'évader de la prison de Blois grâce à une opération audacieuse menée par les francs-tireurs et partisans français. Comme quoi, selon où on se place et où on regarde, l'évasion est aussi un acte de résistance.
Jeudi 5 septembre, à Sud-Kivu, une province de la République démocratique du Congo, 16 détenus s'évadent de la prison de Minova. Le directeur de la prison dit que l'évasion est intervenue à l'issue d'un échange de tirs entre militaires et policiers commis à la garde. Les militaires seraient venus à la rescousse de leurs compagnons d'armes gardés dans cette prison. Et voilà, c'est fini pour les brèves de détention pour tous les détenus qui veulent courir, se barrer de ces geôles.
Ou juste péter la gueule à un maton ou deux.
Kasıldı bu kervana yiğitler diyarından Doğurdu kara koşan inleyen bir anadan Katıldı bu kervana yiğitler diyarından Düşman, yanıldı kahpe düşman İnanmam hiçbir zaman Ölmedi mazlum doğan İskence kar etmedi Yanıldı kahpe düşman Yanıldı kahpe düşman
Thank you. Alors du coup, vous êtes toujours sur Radio Canu. On va faire l'agenda en terminant avec Noise Pollution qui enchaîne. Et là, c'était un chanteur kurde. C'est pour faire la promotion de l'événement qui ira demain à la Maison des Passages. Donc, faut venir, c'est à partir de 16h. Du chanteur, est-ce qu'on m'entend pas du tout? Voilà, c'est ça. C'est Noise Pollution, il m'a déconcentré pour la rentrée là.
Bah oui, mais parce qu'il arrive par derrière et il nous fait des petites blagues, il tape dans ses mains, il claque la porte.
Et du coup, le comité kurde du Centre culturel Mésopotamie de Lyon vous invite à venir discuter sur la situation actuelle du Kurdistan. Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a une armée kurde en Syrie, au milieu de la guerre en Syrie. Il y a Öcalan qui serait peut-être en train de négocier avec l'État turc. Il y a eu multiples grèves de la faim en septembre dernier. Et aussi, il y a eu 3 assassinats en France. Du coup, ils veulent revenir sur la situation et faire un point là-dessus. C'est à partir de 16h, Maison des Passages, samedi 7 septembre 2013, à partir de 7h, 16h44, rue Saint-Georges, Lyon 5e. Et puis, on va juste terminer sur qu'il y a une manif syndicale contre la réforme des retraites le 10 septembre. Et ben voilà, faut venir parce que ça va être le début de l'insurrection à Lyon et partout ailleurs.
C'est à 10h30. À la manufacture des tabacs.
Voilà. Tout à fait. Et on va vous laisser avec Noise Pollution. Je pense que c'est mieux pour vous, auditeurs, auditrices assidus de Radio Canu.